bonsoir. C'est toujours un peu angoissant de parler en dernier. En même temps, je me sens tout d'un coup moins angoissée qu'en tout début de matinée, quand M. Kaeplein a embrayé sur le public surpris. Je me suis dit, ah zut, c'est exactement ce dont je vais parler, donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? En réalité, je me suis aperçue que ce dont je vais vous parler, finalement, va peut-être tirer un fil entre tout ce qui a été dit à propos des publics et sans prétendre organiser ces discours croisés, en tout cas, peut-être leur donner un type de visibilité ou de lisibilité pour vous. La question des publics de l'art contemporain dans les monuments historiques n'a pas encore soulevé l'enthousiasme des sociologues. Du coup, on n'a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent quand on veut effectivement regarder de quoi il en retourne pour de vrai, c'est-à-dire avec des vrais visiteurs qui nous parlent de leur expérience de visite. Il y a une manière de s'y prendre très classique en sociologie, c'est de distinguer au moins les échelles d'observation, si bien que c'est un peu comme ça que j'ai procédé pour rassembler des données, l'échelle macroscopique, l'échelle méso, l'échelle micro, bref, les grandes enquêtes nationales, les enquêtes in situ, et puis ce qu'on appelle maintenant les enquêtes de réception. Évidemment, ces différentes manières de s'y prendre sont cadrées par les apports de la sociologie, ou je vais presque dire de la sociologie de l'individu, puisque c'est finalement celle qui a introduit de nouvelles lectures sur les publics, sur les visiteurs, notamment en faisant cette distinction entre public déclaré et public réel. L'idée que les musées sont au moins autant pluriels que leur public, que le visiteur lui-même est un individu pluriel, on a cité ce matin le nom de Bernard Lahire, et que son rapport, en quelque sorte, à la culture change, en même temps que lui-même change tout au long des cycles de sa vie, et finalement, on a presque une espèce de visiteur liquide, comme on pourrait parler d'un rapport à la culture qui serait aussi liquide. À partir de ces cadres-là, finalement, on peut après s'interroger au moins sur deux choses. D'un côté, les processus de socialisation de la culture. De l'autre côté, les processus d'individualisation de la culture. Dans le premier cas, on va plutôt regarder ce qui se passe quand il y a de la médiation qui intervient, que ces médiations soient formelles ou informelles. Et dans le deuxième cas, on va plutôt s'intéresser à ce que on a appris de l'analyse critique de la littérature et notamment de l'école de Constance sur la réception, à savoir cette transaction réflexive qui s'opère à l'occasion d'une visite. Donc, très vite, si on embraye sur le premier niveau de l'échelle d'observation, en gros, qui déclare visiter quoi, et donc qui renvoie à l'enquête nationale pratique culturelle des Français, qu'on procède à quelques analyses secondaires, finalement, par rapport à ces chiffres qui disjoignent les pratiques, on a aussi des pratiques qui se recouvrent, de telle sorte que la visite de lieux, d'exposition au sens large, de monuments au sens large, est une pratique qui finalement concerne maintenant au moins 9 Français sur 10 au moins une fois dans leur vie et plus de 5 Français sur 10 au moins une fois dans l'année. Après, on peut s'interroger sur qui visite plutôt du patrimoine, qui visite plutôt de l'art moderne et contemporain, puisqu'on ne peut même pas, avec le protocole d'enquête, être plus précis que ça et pas simplement cibler sur de l'art contemporain. Lieu patrimonial, c'est-à-dire à la fois des monuments, des chantiers de fouilles, éventuellement, du son et lumière, 38%. Art moderne et contemporain, 9%. Les deux à la fois, 7%. Et encore, on est probablement très au-delà de ce qui serait si on raisonnait exactement et seulement sur les visiteurs sur de l'art contemporain. de telle sorte qu'on a quand même plutôt affaire, de toute évidence, à des publics disjoints, qui n'ont pas les mêmes curiosités, qui n'ont pas les mêmes intérêts, et qui, finalement, fonctionnent dans des espaces thématiques de pratique, pour les uns du côté de l'art contemporain, pour les autres du côté de l'histoire. Et quand on regarde toujours à travers des chiffres que nous livre l'enquête pratique culturelle des Français, le profil vu de loin de ces visiteurs déclarés, on a d'un côté tout ce qui concerne le public de l'art contemporain, de l'art moderne et contemporain, où on aurait une espèce de cumul d'indicateurs d'une pratique élitiste, comme on disait dans le temps. Et puis de l'autre côté, on aurait plutôt une série d'indicateurs d'une pratique plus démocratisée. Le fait que ce soit plus masculin que féminin pourrait être d'ailleurs un des indicateurs. Et en tout cas avec un effet du diplôme moins marqué. Bon, je vous ai mis quelques chiffres, mais on n'a vraiment pas le temps de regarder ça. Je voudrais justement attirer votre attention sur cet effet du diplôme. On voit très bien que les Français déclarant avoir visité un monument historique, finalement, sont pour plus de la moitié des gens qui n'ont pas de diplôme universitaire. À l'inverse, ceux qui déclarent visiter plutôt de l'art moderne et contemporain sont pratiquement aux deux tiers des gens qui détiennent un diplôme universitaire. Bon, en gros, je vous ai donné quelques éléments sur ce niveau de l'observation. Si on passe au deuxième, et si on passe au deuxième niveau d'observation, qui est celui, on va dire, du public réel, en tout cas celui qu'on rencontre in situ dans les lieux patrimoniaux, on a une autre manière de percevoir les choses. Je me suis amusée, parce que je savais que M. Martin était là, à exhumer de l'enquête 2008 sur la gratuité, l'expérimentation de la gratuité dans 14 musées et monuments nationaux au premier semestre 2008, les données qui concernaient le château d'Oiron. Une augmentation de la fréquentation du lieu en période de gratuité, 88% sur un semestre, mais pas forcément un public majoritairement mobilisé par cette offre de gratuité. Par rapport aux autres lieux qui ont expérimenté cette gratuité, il y en a même deux fois moins souvent. Pour mesurer les effets de cette gratuité sur éventuellement la modification de la composition du public, j'avais conçu un certain nombre d'indicateurs, dont un premier relatif aux liens que les individus ont avec la culture, lien fort, lien faible, un indicateur autour de l'appartenance à un groupe social, le fait qu'on ait affaire plutôt à des visiteurs de proximité ou plutôt des touristes, et touristes avec la déclinaison, donc excursionnistes, touristes nationaux, touristes étrangers, et puis le clivage primo-visiteur, déjà visiteur. Alors, j'ai pas de très très belles images, comme on en a eu toute la journée. J'ai des choses qui ressemblent à ça, qui, je sais pas. Alors, je sais pas, vous arrivez à voir ? Bon, donc c'est en gros, oui. Ça, enfin, vous voyez qu'il y a des taches. vous voyez qu'il y a des axes qui se coupent, et puis il y a des cadrans. Hein, enfin, il y a des secteurs, et alors il y a des bulles de positionnées dans les secteurs. J'appelle votre attention sur le quart de gauche inférieur, avec là une pastille verte qui est la mobilisation. Ah mais oui, c'est vrai qu'on peut pas voir ça. Donc la mobilisation par la gratuité, c'est-à-dire la gratuité qui joue dans la décision de se rendre dans l'établissement. Le quart supérieur, on a plutôt les gens qui sont non motivés par cette gratuité, et puis la partie de droite du graphe, on a plutôt les pas informés de cette gratuité. Je vous demande juste de regarder donc ce quart ce quart inférieur, où on voit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, normalement vous devriez, que le public le plus mobilisé à Roiron par la gratuité, c'est quand même un public qu'on peut classer soit dans la classe populaire, soit dans la classe moyenne inférieure. C'était juste comme ça pour rigoler. Deuxième graphe, toujours issu de cette analyse des données sur la gratuité, et là j'appelle votre attention plutôt sur la partie, le secteur droit en haut, où il y a entre deux pastilles, vous voyez un trait qui marque un vrai lien de significativité entre, et toujours à proximité de la pastille mobilisée, familiarité faible et public de proximité. Autrement dit, là, on a très clairement sur votre établissement d'un moment de votre longue carrière, un public de proximité, en gros issu des catégories populaires, qui entretient avec la culture un lien de familiarité plutôt faible, et qui profite de la gratuité pour venir voir de l'art contemporain dans un monument historique. On a un cas de figure où là, on a une mixité des publics. Si on regarde maintenant à un troisième niveau de l'échelle d'observation, et là, on se rapproche du visiteur et de l'économie de la visite, il n'y a pas énormément d'études. Il y en a une que Mme Bernadac, du reste, n'a pas du tout évoquée ce matin. Il y en a même deux ou trois sur les publics, justement, du Louvre et des parcours qu'elle a décrits. À la limite, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'on a quand même affaire à un public de l'art au Louvre. Et que il est, pas entièrement rebuté par un autre type d'art, l'irruption d'une autre catégorie d'art dans un lieu qui est quand même le musée, enfin le prototype du musée en France. Deux enquêtes que m'a fait penser Françoise Fradin, qui est là, premier rang, et qui concerne des expositions que le Centre des Monuments Nationaux, des expositions d'art contemporain que le Centre des Monuments Nationaux avait mis en place d'un côté au Palais du Thau à Reims et de l'autre côté au Château de Tarascon, ont fait l'objet d'une étude de réception qui a mobilisé ce qu'on appelle une démarche plutôt ethnographique. Donc on regarde ce que font les visiteurs, on les regarde à certains endroits, on regarde leur comportement, on mène éventuellement des entretiens courts ou plus longs à l'issue de la visite. Bref, là, il y a 150 visiteurs qui ont été rencontrés. On discute également avec le personnel du monument et on fait une analyse de ce qui est écrit dans les livres d'or. Il y a des fautes d'orthographe et il manque un S à livre. Bon, c'est pas grave. Bref, là, on est plutôt par rapport au Louvre à un public qui est majoritairement non sensibilisé à l'art contemporain et qui est majoritairement non demandeur et non averti de ce qui va lui arriver en visitant ce monument. Du même coup, qu'est-ce qui se passe, ou plutôt qu'est-ce que les visiteurs voient ? Alors, ils voient en fonction du contexte et ils voient de la visite, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas tout seuls, première chose. Donc, mais également, ils voient en fonction de la manière dont les œuvres sont mises en exposition. Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Donc, ils ressentent tout et n'importe quoi. C'est pas ça qui est intéressant, et je dis ça de façon extrêmement lapidaire en plus parce que vous devez être épuisé, mais c'est surtout que ça les fait penser à l'art contemporain. Et ça m'a fait moi aussi penser à une étude qu'on avait menée avec mon équipe au Centre Pompidou auprès de jeunes lycéens de ZEP en visite au centre, et que vraiment ce qui les marquait, c'est de pouvoir réfléchir et discuter entre eux de l'art contemporain. Après tout, c'était peut-être moins la question du goût qui était en jeu que de réfléchir à quelque chose auquel ils ne réfléchissent jamais. On a peut-être cette idée-là qu'on peut réemployer à propos de l'usage que font les visiteurs des monuments par rapport à l'art contemporain. Il me semble cependant que les deux études qui ont été menées et que je viens d'évoquer, et celle du Louvre aussi, faisaient un petit peu un pas en arrière par rapport quand même à un travail un peu fondateur sur la question qu'avait réalisé Nathalie Hennick à propos du rejet de l'art contemporain s'agissant de l'installation des colonnes de Buren au Palais Royal. Et puis un travail que j'avais demandé, que j'avais mené à la demande de la DAP, et là encore Françoise Fradin était présente, au moment où le FRAC PACA avait présenté cette exposition Hypothèse de collection au musée du Luxembourg à la fin des années 90. Ce qui était apparu assez clairement, et là je m'inscris un tout petit peu en faux avec ce qui a été dit notamment par M. Martin, ce qui était apparu assez clairement, c'est qu'un dispositif de médiation changeait beaucoup de choses. En réalité, dans la situation décrite des colonnes de Buren par Nathalie Hennick, les catégories du jugement les plus souvent mobilisées pour rejeter l'art contemporain étaient celles de ce qu'elle appelait le purificatoire. Bon, qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui ne l'est pas, de l'esthétique et du civique. Et dans le cas de figure que j'ai observé avec un dispositif de médiation avec ses défauts, mais malgré tout présent, on voyait très bien que les visiteurs engager des choses sur un questionnement sur le sens de l'œuvre, sur ce que l'œuvre leur faisait du point de vue des émotions et des sensations, et sur le fonctionnement de l'œuvre, pas simplement son fonctionnement interne, mais aussi ses prises grâce à la médiation. Et en tout état de cause, il semblait que c'était moins le rejet ou l'adhésion à l'art contemporain qui était en quelque sorte le facteur explicatif de l'inversion des polarités du jugement sur les œuvres que la présence d'un dispositif de médiation. Alors, on peut concevoir aussi, et ça va être un peu le début de la fin de mon intervention, que l'enquête auprès des visiteurs est également un dispositif, ou pour le moins un méta-dispositif de médiation. Si effectivement on reprend la question du rapport des visiteurs aux œuvres, mais via les médiations, il y a quand même trois moments à prendre en considération. C'est l'horizon d'attente, on l'a dit tout à l'heure, et finalement la posture de visite que cet horizon d'attente installe, l'expérience de visite elle-même, et puis les logiques de la réception. Ce qui est intéressant avec l'horizon d'attente, c'est que c'est une idée à double tranchant, en fait. Horizon d'attente, c'est le cadre que forment c'est le cadre en quelque sorte, c'est la boîte à outils dont dispose le visiteur quand il se rend dans une exposition, et cette boîte à outils est fabriquée elle est fabriquée pour une boîte à outils, c'est bizarre ce que je raconte, de toutes les expériences réussies ou ratées qu'il a pu avoir précédemment, et en tout cas qui font que quand il arrive, il n'est pas entièrement naïf, et qu'au contraire, il a déjà en quelque sorte une idée de ce qu'il attend. Toute la question, c'est est-ce que ça va lui suffire ? Est-ce que cette répétition de l'idée va le satisfaire ? Alors, autrement dit, qu'est-ce que la satisfaction chez le visiteur ? Et si on essaye de penser à la relation entre le visiteur et le musée ou le monument ou l'exposition, peu importe, comme à un système d'action et de transaction attaché à des contextes et à des utilités, en fait, on a trois grands univers d'interprétation qui s'imposent à nous. qui est celui des perceptions et des émotions pour commencer, le deuxième qui est celui de la connaissance expérientielle, et le troisième qui est plutôt l'univers des valeurs, donc l'univers axiologique. Sur cette base-là, j'ai réfléchi à un dispositif d'enquête qui fait repasser du niveau qualitatif au quantitatif, enquête sur la satisfaction qui va être lancée donc dans une quarantaine de musées nationaux, une dizaine de monuments nationaux et une dizaine de villes et d'histoires entre le 20 octobre et puis le 10 novembre, et qui comporte un certain nombre de questions. Question assez inédite, en fait, finalement, dans les questionnaires de ce genre. La première qui est posée aux visiteurs, c'est dans quel esprit ils se situent au sorti de la visite. Et il a trois mots à choisir pour caractériser ce qu'il ressent. Une question un peu plus loin est relative à, finalement, la manière dont il évalue ses attentes et ce qui lui est arrivé par rapport à ses attentes. Je ne parle pas d'horizon d'attente, là je suis beaucoup plus modeste. Et puis une autre question qui vient un peu plus loin dans le questionnaire concerne finalement la recommandation qu'il va faire à son entourage d'une visite dans ce lieu. On a testé ce protocole d'enquête qui vous semble sans doute assez bizarre auprès des jeunes de 18 à 25 ans qui pratiquent la gratuité depuis le mois d'avril. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, la mise en relation de ces choses. Alors, là encore, on a quelque chose avec des axes et puis des secteurs. Et on a là le traitement de la question qui est par rapport aux attentes, finalement, en gros, vous êtes content ou pas. Et de l'autre côté, jusqu'à quel point, sur cette échelle de prescription, vous êtes prêt à conseiller la visite à quelqu'un de votre entourage. Alors, il y a une première chose qui est assez nette. C'est que, finalement, et il n'y a que le secteur de gauche en haut qui est intéressant, c'est que si si notre indicateur de prescription est en dessous de 9, finalement, sur une échelle qui va jusqu'à 10, en gros, ça correspond à une visite qui soit a beaucoup déçu, soit finalement correspondait à l'horizon d'attente, c'est-à-dire que, mais pour que on la conseille, il faut qu'elle dépasse de un peu ou beaucoup ce à quoi on s'attendait. Alors comme je voulais pas tout mettre sur le même graphe, j'en ai fait un deuxième où là j'ai mis en relation comment se place cette attente par rapport à l'état d'esprit. Et si là encore vous vous mettez à regarder le secteur en haut à gauche, où on a le dépasse un peu et dépasse beaucoup les attentes, on a une série d'adjectifs qui sont reliés entre eux par un trait qui indique que la relation est significative statistiquement. Il s'agit de bouleverser, émotion forte, on va dire, émerveillé. Et puis, il y en a deux autres qui sont assez intéressants à regarder, qui sont respecter et surpris. Respecter et surpris, c'est un peu ce que monsieur Martin a dit pour terminer son intervention et sur comment ménager finalement le ressenti de vos visiteurs de proximité qui sont en quelque sorte les habitants, en fait, comme Georges-Henri Rivière parlait d'habitants et non pas de visiteurs s'agissant des écomusées. Et on voit bien que ce respect est une dimension clé de la satisfaction. Et la seconde dimension clé, c'est la surprise. En quelque sorte, on a fait la boucle avec ce qui se disait ce matin au tout début de cette journée. Et voilà, j'en ai fini. Je vous remercie.